Je voudrais m'arrêter avec vous ce matin sur une prière de la Bible qu'un jour un homme de l'Ancien Testament a fait monter devant Dieu. Alors vous le savez, comme moi, je ne vous apprends rien ce matin. Toutes ces prières qui sont contenues dans la parole, elles ne sont pas là pour qu'on les apprenne par cœur, elles ne sont pas là pour qu'on les récite par cœur, mais elles sont là justement pour nous enseigner certaines choses et pour comprendre certaines choses. Et ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur une prière qu'un jour a fait monter le roi David dans un contexte bien particulier. Vous rappelez qu'à un moment donné, il a eu une pensée, il a eu un désir dans le cœur, il a voulu bâtir un temple pour l'Éternel. Et puis Dieu, alors je résume, hein, Dieu va lui dire OK, mais ça ne sera pas toi qui vas le faire. Vous imaginez un peu, vous avez une pensée, vous avez une idée, vous projetez un truc, projetez quelque chose pour Dieu, et puis Dieu vous dit ouais, c'est super, tu as une bonne idée, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Et ce que j'aime chez David, c'est qu'il ne va pas bouder. Vous savez que les chrétiens bouddhistes, ça existe. David ne va pas faire le bouddhiste. Hein, vous voyez, il va pas se froisser, il ne va pas se vexer. Hein, et la Bible nous dit qu'il va manifester un état d'esprit extraordinaire, il va faire des préparatifs. Hein. Je crois que c'est important de réaliser que dans l'œuvre de Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, le plus important, c'est l'état d'esprit qu'on manifeste, l'état de cœur qu'on manifeste. Et là, dans cette situation, David n'a pas manifesté un état d'esprit négatif, il ne va pas dire, bah, puisque c'est comme ça, bah, alors je ne fais plus rien, puisque c'est comme ça, bah, débrouille-toi, puisque c'est comme ça, bah, vas-y, on va voir si tu es si malin que ça. Non, 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 il va faire des préparatifs. Et là, dans toute cette préparation de tout ce bon projet, il se passe quelque chose. On va le lire ensemble dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, et verset 6. Premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 6. Alors normalement, ça va s'afficher. Je suis en plein milieu. Je ne suis pas transparent en plus. Bon. 1 Chronique, chapitre 29, verset 6. Il est dit ceci. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour les trésors de la maison de l'Éternel entre les mains de Jehiel le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut une grande joie. Donc, il y a un élan extraordinaire, là. On sent qu'il y a de l'engouement pour le projet, on sent qu'il y a des gens qui sont heureux, qui veulent vraiment faire les choses bien, il y a un enthousiasme débordant pour l'œuvre de Dieu, et c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est super, on a encore envie d'aller plus loin, et c'est dans ce contexte-là où il y a un engouement, il y a de la ferveur, il y a de l'enthousiasme, que David va faire cette prière. Et la prière, on l'a un petit peu plus loin, au verset 17. Et David dit ceci dans sa prière, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple, et on vient de le lire, qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Amen. » Je crois que c'est une prière très intéressante, parce que déjà David, à son époque, à ce moment-là, avait pris conscience de ce qu'était le cœur humain. Et surtout de ce qu'était son problème numéro un. Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur ça ce matin, plus particulièrement sur ce qu'il dit au verset 18, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. » Et je voudrais qu'on retienne, surtout qu'on s'arrête, surtout, je l'ai souligné moi dans ma Bible, ce verbe « maintiens ». Maintiens, vous voyez ? Parce que souvent notre problème, et le problème en général de l'être humain, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, au niveau de la conversion, au niveau du service de Dieu, au niveau du sérieux avec Dieu, en général, au départ, c'est toujours tout feu, tout flamme. Au départ, c'est toujours, il y a toujours de la ferveur, il y a toujours de l'engouement, il y a toujours de l'enthousiasme, on est prêt à y aller, il y a de la fraîcheur. Ouais, c'est super, on y va. Le problème, c'est que parfois, on se rend compte que avec les aléas de la vie, peut-être avec le temps qui passe, et je vais y venir, on n'arrive pas à maintenir. Et j'emploie à dessein ce verbe, on n'arrive pas à maintenir ces mêmes dispositions de cœur-là. On n'arrive pas à maintenir ce même élan-là, ce même enthousiasme-là, cette même fraîcheur, voyez. Et en ce sens, la prière de David, elle est très intéressante pour nous, parce qu'elle nous montre que déjà à ce moment-là, David avait pris conscience de ça. Et il prie pour ça. Maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions et ces pensées, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de beau, mais il fallait que ça dure, il fallait que ça reste. Voyez. Et c'est très intéressant parce que vous retrouvez ce verbe, par exemple, dans le Nouveau Testament, dans une petite épître, la petite épître de Jude, vous vous rappelez, alors on va le passer derrière, il y a juste un chapitre, Jude, où il dit ceci, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, regardez verset 21, il dit ceci, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Voyez, parce que j'ai envie de dire, je vais prendre cette image, se jeter dans l'amour de Dieu, dans le fleuve de l'amour de Dieu. Le jour où on rencontre le Seigneur, le jour où le Seigneur touche notre cœur, le jour où vraiment il y a quelque chose qui se passe, j'allais dire à la limite, on se comprend, mais c'est facile. Notre cœur est touché. On réalise ce que Jésus a fait sur la croix, on comprend sa grâce, il y a eu des dons spirituels ce matin, j'en ai entendu à ce niveau-là, et c'est extraordinaire, et c'est une image bien sûr, mais on se jette dans le fleuve de l'amour de Dieu, c'est extraordinaire, mais j'allais dire, si ça c'est bien, c'est super, au début c'est extraordinaire, le plus important c'est de s'y maintenir. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Vous voyez, on retrouve un petit peu ce verbe-là, et je le dis souvent à Ajaccio, et chaque fois que je le dis, c'est sans jugement, mais si tous les gens qui, partout, dans tout le pays, tous les gens qui un jour ont dit oui au Seigneur, se sont engagés avec le Seigneur, sont passés par les eaux du baptême, ont confessé le nom de Jésus dans leur vie, comme leur sauveur et le Seigneur, si tous ces gens s'étaient maintenus dans l'amour de Dieu, ben ici ça serait trop petit peut-être, à Ajaccio c'est pareil, et on ne saurait plus où mettre les gens, et peut-être qu'il faudrait faire 1, 2, 3, 4, 5 cultes. Parce que quelque part, à un moment donné, et je jette la pierre à personne, on n'a pas su se maintenir. Et justement, c'est un petit peu ça ici, la pensée. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, voyez. Et ça, c'est important. Cette pensée-là, vous la retrouvez dans toute la parole. C'est ça qui m'a frappé, c'est que David déjà faisait ce constat à son époque. Jude faisait ce constat, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit. Mais vous retrouvez ça partout. Par exemple, je pense à Jésus, dans la fameuse parabole du semeur. Jésus lui-même en parle. On connaît un petit peu ça. Hein, tous ces terrains, ces différents terrains sur lesquels la semence est jetée, la semence est semée plutôt. Et puis, rappelez que Jésus va donner un petit peu l'explication. Et sur un des terrains, où au départ ça part bien, à un moment donné ça va s'arrêter. Et Jésus explique, il va dire ceci, verset 16, « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. » Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Enthousiasme, ferveur, fraîcheur. « Waouh, c'est super !» Le problème, il est après. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Voyez. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Voyez. Ils manquent de persistance. Autrement dit, ils ne se sont pas maintenus sur ce chemin de foi dans lequel ils se sont engagés. Et Jésus, ici, donne la raison. C'est parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Voyez. Et ça, c'est très important de s'y arrêter. Parce que ça nous montre une chose importante, c'est que si nous voulons nous maintenir dans l'amour de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure dans Jude, si on veut jusqu'au bout, parce que quand même il est dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, si on veut se maintenir jusqu'au bout, et dans bien des domaines, être de ceux qui sont constants, on a besoin d'avoir des racines. Et les racines, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ce qui est caché. Ça nous parle de ce qui ne se voit pas. Ça nous parle de notre vie secrète avec Dieu. Et il n'y a pas de secret dans la marche avec Dieu. Si je veux durer, si je veux maintenir de bonnes dispositions de cœur, si je veux maintenir une vie qui lui soit agréable, j'ai besoin d'avoir des racines spirituelles. J'ai besoin d'avoir un fondement spirituel. Si je n'ai pas, de la profondeur spirituelle, s'il n'y a pas ces racines, je ne pourrai pas me maintenir. À un moment donné ou à un autre, je vais lâcher prise. Et c'est un petit peu ça que Jésus explique, vous voyez. Il n'y a pas de secret. La vie secrète avec Dieu, avoir une communion personnelle avec Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est important si je veux maintenir un certain niveau de foi, si je veux maintenir cet enthousiasme, cette fraîcheur pour Dieu, et pas simplement être une étoile filante. Dieu ne veut pas qu'on soit une étoile filante. Dieu ne veut pas qu'on soit simplement des chrétiens d'un moment, d'un instant, ou d'une situation. Mais Dieu veut conduire. Si je veux maintenir ça, j'ai besoin d'avoir des racines. Et dans la parole, vous avez des exemples extraordinaires. Je pense à Daniel. Daniel, dans un contexte... Alors, je vais le dire avec des mots d'aujourd'hui. Daniel, si vous relisez l'histoire, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de groupe de jeunesse. Il n'y avait pas de chorale. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de club du dimanche. Il était à Babylone. Contexte hostile aux choses de Dieu. C'était même tout le contraire. Nebuchadnezzar qui a essayé de leur inculquer les valeurs de Babylone, qui a changé leur prénom. Enfin, quelque chose de vraiment, c'était tout le contraire. Il y avait tout pour couler. Et puis vous voyez un jeune qui arrive à peu près à Babylone entre, je ne sais pas, on ne va pas se battre sur l'âge, entre 14 et 18 ans. Et puis au début, il prend position, il refuse de se souiller avec les mets du roi. On aurait peut-être pu lui dire, ouais, tu verras dans quelques temps, peut-être tu feras moins le malin. Hein? Et puis vous lisez le livre et puis vous voyez un homme de Dieu qui dure. À tel point que vous arrivez au chapitre 6, et là à ce moment-là, Daniel, a à peu près 80 ans. Et la Bible nous dit que là, il y a un décret qui est fait, qui est fomenté contre lui. Je ne rentre pas dans les détails. Et là, la Bible nous dit, Daniel chapitre 6, verset 10, que qu'est-ce qu'il va faire? Comme il le faisait d'habitude, trois fois le jour, il va prier, il va louer son Dieu, comme il le faisait auparavant. C'est quoi qui l'a aidé à tenir? C'est quoi qui l'a aidé à maintenir ses dispositions de cœur pour Dieu, dans un contexte hostile, où il n'y avait rien pour l'aider, il y avait tout pour l'entraîner vers le bas, l'attirer vers le bas? Comment ça se fait? Est-ce qu'il était meilleur que les autres, plus fort que les autres? Non, il avait des racines spirituelles. Et c'est important que, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, qu'on ait des racines spirituelles. Si on veut se maintenir dans l'amour de Dieu, si on veut durer jusqu'au bout, on a besoin d'avoir ces racines dont Jésus a parlé dans la parabole du semeur. A besoin d'avoir ce cœur enraciné profondément dans les choses de Dieu. Je pense à l'apôtre Paul qui va dire à Timothée, je cite ce verset de mémoire, quand il lui dit ceci, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma foi, ma douceur, mon amour, et lis ma constance. » Ça m'a toujours interpellé, ma constance. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes constants dans son œuvre. Constants, pas, alors c'est vrai qu'on est église évangélique de Pentecôte, la pente et la côte. La constance est importante. Et pourtant, Paul dit, tu as suivi de près ma constance. Quand on voit ce qu'il a subi, quand on voit ce qu'il a enduré, relisez 2 Corinthiens chapitre 11, il donne une liste impressionnante. Moi, je ne sais pas si j'aurais tenu avec tout ce qu'il a vécu. Hein, par exemple, il dit, trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, etc., etc. Quand vous dites ça, vous dites, mais vous avez l'impression qu'il est toujours en péril, lui. Pas possible. Avec tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a vécu, sans parler du reste, des trahisons, des critiques, des moqueries. Enfin, mais comment il a tenu le coup? Il y avait tout pour abandonner. Il y avait des racines. Ce qui fait que jusqu'au bout, il a maintenu une constance spirituelle. Et Paul est heureux parce qu'il voit Timothée qui part sur cette même ligne. Tu as suivi de près ces choses-là. Tu as suivi de près ma foi, ma douceur, ma constance. Et ma prière, c'est qu'on soit des hommes et des femmes dans l'œuvre de Dieu constant, pas simplement qui marchent à l'envie, à l'humeur. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je le fais. Demain, je ne suis pas de bonne humeur, je ne le fais plus. Vous voyez, ce genre d'attitude. Non, qu'il y ait cette constance spirituelle qui vient d'une communion avec Dieu, de racines profondes avec Dieu, de l'action du Saint-Esprit qui se passe dans notre cœur. Et je bénis Dieu pour l'Église. C'est important d'avoir une vie d'Église. Je vois ce lieu, il est beau, c'est magnifique et c'est important d'être là. Mais ça ne remplacera pas notre communion personnelle avec Dieu. Il faut les deux. Il faut la vie d'église, ça c'est important, mais il faut aussi cette relation personnelle avec Dieu, cette communion personnelle avec Dieu qui va me maintenir dans l'amour de Dieu et qui fera que malgré les aléas, les situations qu'on traverse, qui fera que malgré tout ce qui pourra se passer, je resterai constant. Ça ne va pas être une succession de hauts et de bas, mais il y aura cette constance spirituelle qui sont là. Vous voyez, quand on réfléchit à tout ça, la prière de David, elle est importante. Maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, parce que c'est ça souvent notre problème. Je pense aussi à ce passage que vous connaissez bien dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur qui adresse ce message à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai regardé Il y a environ entre le moment où l'apôtre Paul écrit l'épître aux Éphésiens et le moment où on trouve ce texte dans le livre de l'Apocalypse, il y a environ, on ne va pas se battre, 35 ans qui se sont écoulés. Et pourtant, si vous regardez bien, il y avait quand même des qualités dans cette église d'Éphèse. Il n'y avait pas que des défauts. Hein. Il y avait des choses quand même assez intéressantes. Hein. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je sais que tu ne peux supporter les méchants, ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Donc, il y avait quand même des qualités spirituelles qui étaient là. C'était pas tout noir, mais Seigneur va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as pas maintenu ça. Tu n'as pas maintenu ça. Vous voyez ? Si on ne veille pas, et je le dis pour moi aussi, hein, mais la routine, les habitudes, je vais même aller un petit peu plus loin, le religieux va prendre le dessus. Vous savez que, j'espère que je vais choquer personne et pas me faire lapider à la sortie, mais si on ne veille pas, il y a un religieux qui se terre au fond de nous, hein, et qui peut très vite ressortir. Vous voyez je l'ai dit à Ajaccio il n'y a pas longtemps, il y a un pharisien qui se cache à l'intérieur de nous si on ne veille pas, et qui peut très vite ressortir. Voyez, et ça c'est un combat. Et on sent que quelque part, entre l'épître aux Éphésiens et ce moment où le Seigneur s'adresse dans le livre de l'Apocalypse à ces mêmes chrétiens, bon, peut-être les gens sont tout à fait les mêmes, les choses ont évolué, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est le temps. Et on touche là à un combat de tous les jours, c'est que le temps qui passe, c'est souvent ça qui fait que quelque part, on n'est plus au même niveau, on n'a pas réussi à maintenir, peut-être le feu à l'intérieur, il s'est un petit peu tassé, vous voyez. Et ce matin, je ne juge personne parce que je m'y mets dedans, mais on a vraiment besoin de dire, Seigneur, aide-moi à maintenir ce feu du premier amour. À pas avec le temps qui a passé, les années, oh oui, je me suis converti il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a plus que ça, oui. Mais qu'il y ait toujours ce feu du premier amour, ce même entrain, ce même enthousiasme, que mon cœur soit toujours en éveil, qu'il y ait toujours ce quelque chose qui est là dans mon cœur pour toi, et que le temps qui passe n'éteigne pas ça. Parce que sinon, je peux faire des tas de choses, hein, mais Seigneur va le relever, Seigneur va mettre le doigt dessus. Vous voyez, c'est tellement important. Et ce matin, c'est un message qui est là pour nous amener, nous encourager les uns les autres, et moi le premier, à amener notre cœur au Seigneur, parce que c'est notre problème. C'est notre problème. Si ce n'est pas le vôtre, tant mieux. Mais je constate avec les années que souvent, c'est notre problème. On a du mal à maintenir cet état de cœur du départ. Et c'est là que, quand on en est conscient, on peut dire, Seigneur, mais chaque jour, je t'apporte mon cœur. Seigneur, je veux pas, Seigneur, que ça décline au fur et à mesure du temps qui passe. Et je comprends un petit peu, bien sûr, il y avait un contexte, mais David, dans le psaume 51, qui va dire, Oh Seigneur, crée en moi, renouvelle en moi l'esprit bien disposé, vous voyez, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Peut-être que ce matin, on puisse dire au Seigneur, que dans mon cœur, voilà, tu renouvelles en moi ce cœur bien disposé, cet état d'esprit bien disposé, cet état de cœur, voilà, tout, Seigneur, bien disposé. Parce que c'est peut-être plus le cas. C'est peut-être plus le cas. Mais regardez, il y a d'autres domaines quand on y réfléchit. Par exemple, au niveau du service pour Dieu, quel qu'il soit, comment je le fais? Comment je le fais? Est-ce que je le fais toujours comme au début? Est-ce que je le fais toujours comme au début? Vous voyez? C'est important. Là aussi, la routine peut vite prendre le dessus. Hein. Et là, je pense à la parabole du fils prodigue et le fils aîné, vous vous rappelez? Lui, le fils aîné, n'était pas parti. Hein. Il était toujours là. Il était toujours là. Hein, mais vous vous rappelez un petit peu ce qu'il va dire quand il voit le fils qui est là, son frère. Relisez un petit peu la parabole, vous allez voir comment il parle de son frère. Genre, hein, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui. Quand je dis ça, j'ai envie de dire, mais c'est ton frère. C'est ton frère dont tu parles, c'est pas d'un étranger. Hein. Il y a tant d'années que je te sers, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je me dis, mais il est toujours là, mais avec quel état de cœur? Il sert toujours, il n'a pas abandonné, mais avec quel état de cœur? Je crois que c'est important d'y réfléchir, de dire, mais Seigneur, dans ton œuvre, comment je fais les choses? Est-ce que je les fais toujours avec ce cœur bien disposé, ou je n'ai pas maintenu ça? Ou quelque part, ça a décliné. Je le fais parce qu'il faut le faire. Ouais, si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Alors je le fais. Ouais. Vous voyez, ça, c'est un petit peu l'état de cœur du fils aîné. Et à un moment donné, ça ressort. Vous voyez, moi, j'encouragerai toujours à servir Dieu, quel que soit le domaine, quel que soit le... Qu'importe. L'important, c'est que vraiment on puisse dire, Seigneur, me voici. Et Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, mais je veux maintenir un état de cœur qui le glorifie. Et quel que soit le service, même le plus infime, même s'il ne se voit pas, mais qu'importe. Parce que ça, c'est des choses que Dieu voit. Il est là, le fils aîné, il n'est pas parti. À lui, il n'a pas quitté la maison de Dieu. Il n'est pas comme son frère, oui, mais... La maison du Père, pardon. Oui, mais il n'a pas maintenu un état de cœur que son Père aime. Je pense aussi à un autre domaine. C'est tout ce que je vais appeler le domaine de la détermination. Alors, je vais employer un mot, la niaque. Oui, la niaque. Est-ce que j'ai su maintenir la même détermination qu'au départ? La même niaque spirituelle qu'au départ. Oui. Ça aussi, c'est important. Et là, je pense à cette fameuse parabole qu'on connaît tous, le jugé et la veuve. Le juge unique et la veuve. Appelé Luc 18. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Bien sûr, il y a un contexte. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis là, vous avez une femme qui a manifesté une détermination. Pourtant, le texte nous dit que le juge, pendant longtemps, il refusa. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire longtemps. Enfin, longtemps, ça veut dire longtemps. Mais elle n'a pas lâché. Et quand je lis cette histoire, je me dis, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est elle qui aurait dû lâcher, mais elle n'a pas lâché. Et celui qui avait tout pour ne pas lâcher, il a fini par lâcher. Vous voyez? Et j'allais dire, les choses se sont inversées. Et quelque part, moi ça m'encourage, vous voyez, de me dire, mais Seigneur, est-ce qu'avec le temps qui passe, peut-être les aléas de la vie, est-ce que je manifeste toujours, j'ai maintenu la même détermination qu'au départ? Ou est-ce que j'ai fini par lâcher, quoi? Je voudrais peut-être encourager quelqu'un ce matin qui peut-être est face à une situation, peut-être tu pries depuis longtemps par rapport à un problème, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui est là, et jusqu'à aujourd'hui il y a eu de la résistance, peut-être c'est pas évident, peut-être tu te dis à quoi bon, ça sert à rien, et puis vous savez, quand on lutte pour quelque chose depuis longtemps, peut-être des semaines, des mois, peut-être même des années, et jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé, peut-être même ça a l'air d'empirer, on se dit, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et souvent c'est là que l'ennemi de notre âme, moi je ne suis pas quelqu'un qui voit le diable partout, mais c'est là que l'ennemi de notre âme vient, il me laisse tomber, à quoi ça sert? Arrête de prier pour ça, ça sert à rien, regarde, ça n'a pas bougé. Et peut-être que tu es devant une situation comme ça ce matin. J'aimerais t'encourager à maintenir une détermination qui plaît au cœur de Dieu. À maintenir cette niaque spirituelle. Je ne lâcherai pas. Et je continuerai à prier. Je continuerai à m'attendre à toi, Seigneur. Je continuerai à espérer en toi, Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Je sais que les choses peuvent changer. Alors, Seigneur, je m'attends à toi. Je veux compter sur ta grâce. Comme cette femme, elle a maintenu une détermination qui a fini par faire fléchir ce juge unique. Et quand même, il n'avait d'égard pour personne. Il ne craignait point Dieu. Et vous rappelez comment Jésus termine cette parabole en disant, mais, et Dieu, comme pour dire, mais, moi, je ne suis pas le juge unique, moi. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, qui ne lâchent pas? Alors j'aimerais peut-être te dire ce matin, peut-être tu es devant une situation où ce n'est pas évident, lâche pas. Maintiens de la détermination, maintiens ce niveau de détermination, Seigneur. Alors bien sûr, quand je dis ça, je parle dans le bon sens. Si on maintient de la détermination dans des choses qui sont contraires à la parole, ça c'est autre chose. Je ne voudrais pas qu'on fasse dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans les choses qui sont bonnes pour le Seigneur, qui sont bonnes dans les choses de Dieu, qui sont bonnes pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, je m'attends à toi par rapport à des situations peut-être qu'on vit au plus près, des gens pour lesquels on voudrait tellement qu'il se passe quelque chose, que leur cœur soit touché, peut-être pour des enfants qui sont partis, qui ne veulent plus venir. Seigneur, moi je ne veux pas lâcher, je veux continuer de prier, je ne veux pas me taire, parce que c'est ça que l'ennemi veut. Mais je veux manifester, je veux maintenir cette même détermination jusqu'au bout. Si ce juge, à un moment donné, il a dit, j'en peux plus. Parce que c'est ça qu'il a dit, j'en peux plus, quoi. Mais Dieu, alléluia. C'est beau, hein, quand on voit des choses qui, parfois, on ne s'y attendait plus, on n'y croyait plus, et puis Dieu a béni. Alléluia. La détermination a fini par payer, si je peux m'exprimer ainsi. Voyez. Il y a des choses, parfois, avec le temps, jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras, hein, et notre rôle à nous, c'est de prier, c'est de maintenir, voyez, maintenir ces choses, dire Seigneur, moi je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Après, il y a ce qu'on peut faire et ce que Dieu fera, mais ma part à moi, je ne lâcherai pas, je le ferai. Je continuerai. Je vais maintenir, Seigneur, ce niveau de détermination. Je m'attends à toi, Seigneur, je mets toute ma foi en toi. parce que je crois que tu es capable d'intervenir et de faire quelque chose. Alléluia. Et puis, je ne veux pas être trop long, attention aussi au fait de savoir maintenir ce que je vais appeler pour nos vies, un niveau d'exigence spirituelle. Ça, je crois que c'est important. Et par rapport à ça, je pense à une parole de l'apôtre Paul, on va l'afficher. Il y a un certain contexte, je vais l'expliquer, dans Galates chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul dit ceci: « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Et il rajoute ceci: « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, écoutez bien, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue, et on retrouve le verbe, fût maintenue parmi vous. » Alors, bien sûr, il y a un contexte là. Dans l'Épître aux Galates, vous rappelez que l'apôtre Paul va faire face un petit peu à tout un tas de faux docteurs qui voulaient amener les chrétiens, tout en continuant à vivre sous la grâce, à pratiquer la loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et Paul s'y oppose fortement. Paul fait barrage à ça. Et je voudrais qu'on retienne surtout ça, verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant. » Vous voyez ? Nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Vous voyez, on sent que il y a un niveau là, il y a un niveau d'exigence que, sur lequel Paul ne voulait pas transiger, il voulait pas descendre en dessous, il voulait pas baisser. Et je réfléchis à ça et je me dis, mais quelque part, dans nos vies, c'est un peu pareil. Qu'on le veuille ou non, on est tous confrontés à ce combat, c'est qu'on est dans le monde, on n'est plus du monde, mais on est dans le monde. Et il faut que dans ce contexte-là, la vérité de l'Évangile dans nos vies soit maintenue. Dans le sens qu'il faut qu'un certain niveau d'exigence soit maintenu par rapport au péché, par rapport au compromis, par rapport au laxisme, par rapport au laisser-aller dans certaines situations. Combien de fois j'ai entendu, de toute façon aujourd'hui c'est comme ça. C'est pas parce que telle ou telle chose, qu'on ne peut pas continuer à marcher avec le Seigneur, vous voyez. Et de la même manière que Paul s'est battu dans ce contexte-là pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue, mais il en va de même dans ma vie, il en va de même dans nos vies. Quelque part, il y a un certain niveau d'exigence spirituelle qui doit être maintenu, parce que si je commence à rabaisser la barre, et à tellement l'abaisser, à un moment donné, il ne reste plus rien. C'est tellement dilué qu'il ne reste plus rien. Alors, bon, pas Arles, c'est pas comme ça, mais... Ajaccio, un souci depuis ça fait moment, hein, depuis plusieurs années, avec tout ce qui est relation maritale, vous voyez. Bon, on vit comme ça, mais on se marie pas, mais on voudrait quand même qu'on nous baptise, on voudrait quand même, vous voyez. Et quand vous expliquez aux gens, mais attendez, voilà, on va expliquer les choses, tout ça, sentez que des fois ça coince, quoi, voyez. Et certains, béni soit Dieu, et c'est souvent là qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dans le cœur. Certains, il n'y a pas de problème, ils comprennent, ils tiltent, ils accrochent, mais pas de souci. Puis ils mettent leur vie en règle devant Dieu, et puis après ils s'engagent avec le Seigneur. Alléluia, on est content. Mais parfois, vous en avez d'autres, et ça, voilà, ça, waouh, hein, qui claquent la porte, qui s'en vont, qui vont ailleurs. Et qui trouvent, hein. Et qui trouvera toujours quelqu'un pour les baptiser, il n'y a pas de souci, hein. Et je crois que c'est important de maintenir un certain niveau d'exigence, sans être cassant, parce que ça c'est autre chose, mais sans être dur, sans être celui qui juge, vous voyez, mais il y a quand même des choses, il faut que la vérité de l'Évangile soit maintenue dans l'œuvre de Dieu, au niveau de tout ce qui est doctrine, mais dans ma propre vie, par ce que je suis, par mon témoignage, parce que si on ne fait pas la différence par mon témoignage, si quelque part... on ne fait pas la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas, il y a quand même un souci, vous voyez. Il faut que la vérité de l'Évangile soit maintenue, et parfois c'est pas évident. Et d'ailleurs, si vous pouvez me mettre le verset, quand même c'est intéressant ce que dit Paul: nous ne leur cédâmes pas un instant, nous résistâmes, vous voyez. Des fois c'est pas évident, hein. Des fois on dit, bon allez, laisse tomber, et puis des fois ça frotte un peu, ça couine. Vous l'avez dit ici, ça couine, hein, ouais. Mais c'est comme les portes, hein. Ça fait des fois ça. Ah. Mais si on commence à lâcher du lest, là, ça ne va plus aller. Ça va attrister le Saint-Esprit. puis on aura beau dire « Seigneur, descends, Seigneur, manifeste-toi », vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire la roue sur l'estrade, ça ne fera rien. Parce que quelque part, voilà, il y a des choses, c'est tellement important. Un certain niveau d'exigence qui soit maintenu, sans devenir des perfectionnistes, sans vouloir être plus spirituel que Dieu, parce que des fois, vous avez des gens qui sont plus spirituels que Dieu. C'est pas ça. Sans être des TTS, des très très spirituels, ou se prendre pour des très très spirituels, mais Seigneur, je veux marcher dans la crainte de ton nom. Et j'aime cette prière, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Hein, Seigneur, je ne veux pas faire n'importe quoi. C'est encore David d'ailleurs qui faisait cette prière dans le psaume 86, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je veux maintenir dans ma vie un certain niveau d'exigence, même si je suis raillé, même si je suis moqué, même si on me critique, qu'importe. L'apôtre Paul le dit, mais on n'a pas cédé. Parce qu'il voulait que la vérité de l'évangile soit maintenue. Il faudra plus que jamais qu'aujourd'hui, il faut que la vérité de l'évangile soit maintenue dans l'œuvre de Dieu, mais aussi dans notre propre vie, par ce que nous sommes, par notre témoignage, afin que quelque part, il y ait une différence qui s'opère. Et après, Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit fera ce que nous ne pouvons pas faire, et c'est tellement important. Alors, je m'arrête. Finalement, je reviens à la prière de David au tout début. Je bénis Dieu pour cette prière, et je me dis, mais elle est plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Et je me dis, mais Seigneur, on pouvait facilement les uns et les autres s'identifier à cette prière, dire Seigneur, tu vois, je t'apporte mon propre cœur ce matin, parce qu'il ne s'agit pas de regarder les autres et dire, ah oui, tiens, c'était pour lui. Hein. Non, dommage qu'il n'était pas là, c'était pour lui. C'est d'abord pour moi ce matin. Et le premier à qui je parle, c'est à moi. Seigneur, aide-moi à maintenir dans mon cœur toutes les dispositions qui t'honorent, qui t'agréent, Seigneur. Et s'il y a des choses qui ont besoin d'être rectifiées, ben Seigneur, on va les rectifier avec ta grâce, avec ton aide, avec ton secours. Mais je veux t'apporter mon cœur, parce qu'on est tous pareils. Peut-être que tu passes par des moments difficiles ce matin, et mon but n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Des fois, il y a des moments où on est moins bien, on a un coup de mou, peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce matin, peut-être on passe par des situations qui font que quelque part, on est peut-être un petit peu en train de piquer du nez. On a du mal à maintenir les mêmes dispositions de cœur. Ce matin, le Seigneur est là pour t'aider, pas là pour t'enfoncer, pas là pour te dire, eh ben, c'est pas bien. Non, mais au contraire, il est là pour te renouveler, mais dire, Seigneur, je vais t'apporter mon cœur. Et ce que David avait compris il y a déjà bien longtemps, ben, Seigneur, je veux le réaliser aussi. Pour te dire, Seigneur, aide-moi à maintenir dans mon cœur ces bonnes dispositions pour toi, qui te permettront d'agir, qui te permettront de faire ton œuvre, qui te permettront de te manifester. Et je crois que Dieu veut le faire. Peut-être, je vais m'arrêter là, j'ai assez dit, je ne veux pas être long, mais peut-être juste prendre quelques instants pour prier, peut-être et demander au Seigneur sa grâce, et peut-être justement... Peut-être dans un de ces points on s'y est retrouvé, ou peut-être tu passes par un moment difficile, et peut-être c'est plus facile de tirer les choses vers le bas que de maintenir le niveau. Ben, ce matin, le Seigneur veut te renouveler, peut-être prendre juste quelques instants, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, et peut-être prier simplement dans la simplicité de la foi.